Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Munier. Vous l'avez entendu, Donald Trump est en pleine guerre commerciale avec la Chine, mais les échéances intérieures se rapprochent aussi pour lui. À 6 semaines, un peu plus des élections de mi-mandat, l'étau judiciaire se resserre et les résistances institutionnelles se multiplient. Pourtant hier, le président américain se disait toujours confiant. On en parle avec vous, Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue, politologue, chercheuse associée à l'IRIS. Votre dernier livre, c'est Trump, la revanche de l'homme blanc. Alors Trump, justement, confiant dans la nomination du 9e juge de la Cour suprême, ce qui est un test pour sa présidence, nomination pour l'instant reportée par la commission judiciaire du Sénat. On voit que la guerre, en quelque sorte, judiciaro-institutionnelle, un peu inhérente à la mandature Trump, se poursuit. Mais si 2017 avait été l'année des démissions, nominations, cette année est bien celle où le procureur Mueller passe à l'offensive. Jusqu'ici, le président américain avait été épargné, mais l'enquête sur sa campagne a franchi un pas supplémentaire fin août avec les aveux et inculpations de proches, hein, l'avocat Jim Cohen et Paul Manafort, ancien directeur de campagne. Alors, mœurs, collusion avec la Russie ou révélation sur le fonctionnement du président ou de la Maison-Blanche, une chasse aux sorcières, répondait à l'avance le président en juin, n'empêche qu'une certaine fébrilité est perceptible à la Maison-Blanche et chez les républicains qui ont toujours besoin de lui, puisque les démocrates visent à faire basculer le Congrès entier. Pour l'instant, Donald Trump, toujours stable dans les sondages, too big to fail, on pourrait dire, un peu comme l'éléphant, symbole des républicains. Mais pour quel résultat sur l'image du parti éléphant? Peut-être un mot sur cette affaire qui n'a pas de lien avec l'enquête sur la campagne russe, mais cette nomination du 9e juge de la Cour suprême, c'est quand même un véritable test, et là, une épine dans le pied pour Donald Trump, Marie-Cécile Nave.
Oui, donc juge Kavanaugh, qui est un juge dans d'autres circonscriptions et qui a été préempté, si je puis dire, qui a été choisi par un certain nombre de lobbies ultra-conservateurs pour le présenter à Trump en disant c'est lui qu'il faut choisir, parce que Trump n'a pas tout ce réseau au sein des lobbies, au sein des groupes politique comme pourrait l'avoir un politicien aguerri. Et puis par ailleurs, il doit donner des gages à tous les différents courants du Parti républicain pour qu'ils le soutiennent dans ses décisions et pour qu'ils le soutiennent aussi électoralement. Donc il a besoin de l'ultra-droite, des ultra-conservateurs, sur la question des mœurs en particulier. Il est en posture un petit peu difficile, Kavanaugh, puisqu'il est accusé par... une femme de tentative de viol qui remonte à très longtemps, pendant leurs études. Et toute la question, c'est de savoir si la suite des auditions, la suite de la procédure de validation de sa nomination devant le Congrès va pouvoir se faire avant les midterms. Est-ce que tout va être réglé avant les midterms ou bien est-ce que ça va prendre plus de temps que ça? Auquel cas, ça pourrait être compliqué si le Congrès, effectivement, bascule du côté démocrate, en particulier la Chambre des représentants.
Avant les midterms ou avant la reprise du nouveau Congrès, donc en janvier 2019. Maintenant qu'on en vienne à cette enquête Mueller, donc je le disais, une inflexion, ou en tout cas deux événements coup sur coup fin août. Alors c'est une enquête qui a déjà eu, je crois, 32 inculpations, qui porte vraiment sur un ensemble de proches assez vaste de Donald Trump. Mais là, Jim Cohen qui affirme avoir Michael Cohen, l'avocat de Donald Trump, qui affirme avoir versé des sommes à des femmes pour obtenir leur silence lors de la campagne, ce qui est interdit, et Paul Manafort qui est inculpé également pour l'instant pour une affaire qui n'a pas directement à voir avec la campagne, mais tout de même, est-ce que c'est dangereux pour Donald Trump?
Oui, Paul Manafort, c'est son ancien directeur de campagne en 2016, jusqu'en août 2016. Et Michael Cohen, c'est son ancien avocat. Avocat, pendant très longtemps, quand il était dans l'immobilier, en fait, Trump. Cohen, c'est quelqu'un qui avait dit « je prendrais une balle pour Donald Trump », tellement il le soutenait. Et puis, fin août, il a dit « à la demande du candidat », il a témoigné sous serment, à la demande du candidat et avec l'intention d'influencer l'élection de 2016, j'ai versé plusieurs dizaines de milliers de dollars à Stormy Daniels et à Karen McDougal, qui sont des anciennes liaisons de Trump en 2006. Et puis, Paul Manafort, donc son ancien directeur de campagne, vient... vient de plaider coupable dans le cadre de l'enquête de Mueller. On ne sait pas exactement ce qu'il a promis de dire, quelles vont être exactement les conséquences, mais on voit bien que les taux se resserrent. Il y a une fébrilité très grande du côté de Trump. On le voit à l'avalanche de tweets un peu vindicatifs qui suivent généralement l'annonce de ces informations donc contre les démocrates, en disant la collusion dans l'affaire, pendant la campagne électorale de 2016, la collusion avec les Russes, c'est pas nous, c'est les démocrates, comme si on rejouait encore une histoire qui a deux ans et qui n'est pas dans l'actualité judiciaire du tout.
Et en tout cas, on rappellera cette phrase savoureuse de Donald Trump. Si vous souhaitez vous offrir les services d'un avocat, n'appelez pas Michael Cohen.
Oui, après avoir dit qu'il s'entourait toujours des meilleurs.
Exactement. Exactement. Alors maintenant, si on en vient à l'impact sur la campagne et peut-être sur l'image des Républicains, vous l'aviez un peu suggéré, mais avant les élections, il y a un peu ce verrou électoral qui fait que les Républicains soutiendront coûte que coûte Donald Trump, ses sorties et ses ennuis judiciaires.
Oui, on est à très peu de temps avant les élections du 6 novembre, donc maintenant, même depuis plusieurs mois, ils n'ont pas tellement le choix que d'être finalement dans le même bateau que le président, d'une part parce que il y a quand même une partie assez importante de l'électorat républicain qui le soutient. D'autre part, parce que...
43% à peu près.
Oui, voilà, 43%, ça, aux alentours de 40%, effectivement, avec une base solide, notamment dans certains États. Ils ne peuvent pas se désolidariser de lui dans le cadre de cette campagne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec lui. Et les Républicains sont extrêmement divisés vis-à-vis de Donald Trump. En revanche, ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer après, puisque les gros sujets qui sont sur l'agenda du président pour les deux dernières années de mandat, c'est l'immigration, la réforme de l'immigration. Et ça, c'est vraiment un sujet de très très grande discorde au sein du Parti républicain depuis très très longtemps. La réforme du système de protection sociale, là aussi, entre autres la réforme de la santé. Et là aussi, il y a de fortes divergences parce que l'Obamacare résiste, hein, les gens continuent de s'y affilier. Et puis, parce que c'est quelqu'un, Trump, qui finalement ternit beaucoup l'image du Parti républicain, en fonction des conclusions aussi de l'enquête du procureur Mueller. Il avait dit qu'il rendrait ses conclusions en septembre. Est-ce qu'il va les rendre avant les midterms ou pas? On ne sait pas. Hein. Il est très secret. On apprend les choses que quand il y a des inculpations, rien ne fuite, hein, dans cette enquête. Donc, l'image des républicains risque d'être ternie. Et ils ont en ligne de mire, bien sûr, les élections de 2020. Et si on a un président où il y a beaucoup d'éléments tangibles, voire de preuves, qu'il a fait des obstructions à la justice, qu'il a menti, qu'il s'est allié avec les Russes pour truquer la campagne des démocrates, c'est quand même presque une affaire d'espionnage. Là-dessus, les républicains, il n'est pas dit qu'ils le soutiennent jusqu'au bout. Il n'est pas dit qu'eux-mêmes n'engagent pas une procédure pour le destituer, c'est tout à fait possible. On le lit un peu dans la presse américaine.
Et alors, précisément, fébrilité chez les Républicains, est-ce qu'un des plus grands dangers de ce point de vue-là, est-ce que c'est pas en train de se retourner contre Donald Trump? Mais il y a eu un sondage sur l'éthique des présidents il y a quelque temps qui montrait que Donald Trump était perçu, en tout cas, comme le président le pire, même devant Nixon, pour son éthique électorale. Un autre sondage chez les Républicains de Neil Newhouse, qui a un conseiller et républicain, qui montre que la campagne pourrait tourner en référendum sur le style Trump, quels que soient les résultats économiques, et qu'une partie de la base électorale trop confiante risque de se démobiliser. Est-ce qu'il risque pas d'être perdu par son style, précisément, en cristallisant, disons, le vote autour de lui, plutôt que sur ses aspects économiques ou sur sa politique?
Alors, il est très très engagé dans cette campagne. C'est probablement le président qui est le plus engagé dans une campagne des midterms depuis dans l'histoire récente, parce qu'effectivement il joue gros. Comme vous le dites, c'est un président qui est très clivant. Alors, son prédécesseur était clivant, mais Trump est très très clivant encore plus, et il entretient lui-même ce clivage. Il joue sur les divisions sociales, raciales, de genre, territoriales, etc.
Et ce faisant, il fixe l'attention sur lui, donc.
Oui, c'est effectivement le but. Alors, on lit beaucoup de choses en ce moment. On lit, par exemple, que une partie de l'électorat républicain ne croit pas à la mobilisation démocrate le 6 novembre, parce que, entre guillemets, on nous a déjà fait le coup en 2016. On nous a dit que Clinton allait gagner. On voit bien que ce qui s'est passé. Donc, ça pourrait effectivement jouer sur la mobilisation des républicains qui se disent c'est gagné. Alors que c'est pas du tout gagné, d'autant que les midterms sont une élection où la mobilisation est traditionnellement moindre que pour une élection présidentielle. Mais vous le disiez, c'est quelqu'un qui dit beaucoup de contre-vérités. Le Washington Post a établi qu'en 592 jours de présidence, il avait dit plus de 4700 mensonges, c'est à peu près 8 par jour.
Et on en restera sur ces statistiques avant les prochaines échéances, élections le 6 novembre, et puis lundi prochain, l'audition de Kavanaugh. Merci beaucoup Marie-Cécile Nave.
Merci.